Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce texte d'écriture si connu et nous te demandons dans ta grâce de nous permettre de mieux comprendre ce don de la prière. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous dans ta vérité. Amen. Je vous invite à vous reprendre place. Je pense que si le téléphone avait existé à l'époque de Jésus, il s'en serait servi pour illustrer cet aspect fondamental de la vie chrétienne qu'est la prière. Alors j'en ai amené un avec moi pour vous montrer vraiment de quoi il est question. Vous savez que Jésus illustrait pratiquement tout ce qu'il disait lorsqu'il marchait le bord d'une route et qu'il voyait des objets de la nature. Il prenait ces objets comme exemple parce que nous avons besoin de visualiser les choses. Alors, tout au long de ce sermon, quand vous m'entendez parler de la prière, pensez à ce petit téléphone portable. Celui-ci vaut rien, mais c'est un vrai téléphone. Jésus nous aurait sans doute dit que l'on peut parler à Dieu comme on parle à travers un téléphone, avec l'assurance que Dieu écoute, qu'il est à l'autre bout du fil, il n'y a plus de fil là, mais qu'il l'a à l'autre bout, et qu'il écoute avec beaucoup d'attention. Nous sommes maintenant capables de rester en contact les uns avec les autres en quasiment permanente grâce au portatif, au téléphone portable. Lorsque nous sommes à des heures et des heures d'ici, lorsque nous serons dans quelques jours près de Seattle, nous serons en mesure, avec un petit appareil comme cela, de communiquer directement avec Alex et Suzanne, et de leur parler. Plus que cela, et là on ne va pas aller si loin dans le texte aujourd'hui, on sera bientôt, on est déjà en mesure de se voir en se parlant. Mais là c'est une autre chose. Avec la différence que le réseau d'accès de Dieu est beaucoup plus vaste que celui de Orange. Une autre différence, il nous dirait que la prière ne coûte rien. On ne parle ni d'abonnement, il n'y a pas le prix des communications, on peut parler aussi longtemps qu'on le veut et à n'importe quelle heure. On ne dérange jamais Dieu. Pour moi qui le dis d'ailleurs, c'est le psalmiste qui le dit. Il dit « Ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël ». On peut parler à Dieu à tout moment, jour ou nuit, Dieu est toujours là à l'écoute. Et dans notre texte de ce soir, Jésus donc parle de la prière et il commence par dire ce qu'elle n'est pas. Jésus pouvait supporter beaucoup de choses, mais il ne supportait pas l'hypocrisie. Et en particulier concernant la prière, alors il dit, quand vous priez, quand vous vous adressez à Dieu, vous parlez à votre Père. La première chose donc que nous voulons relever ce soir, c'est que la prière s'adresse à Dieu et à Dieu seul. Elle ne s'adresse pas aux hommes et encore moins aux saints ou à Marie. Nulle part dans l'Écriture, il est question de prier les saints. D'ailleurs, nous voyons le contraire. Dans Actes 10, 26, lorsque Cornélius tomba à la face contre terre et implora l'apôtre Pierre, celui-ci lui a dit « Lève-toi, je ne suis qu'un homme comme toi ». C'est la même chose dans Actes 14. L'apôtre Paul et Barnabas avaient du mal à contenir les habitants de la ville d'Icône qui voulaient les prier, qui voulaient les adorer, leur offrir des sacrifices. Et Paul leur dit « Arrêtez, nous sommes de la même nature que vous ». Et il les invite à plutôt adorer et prier le seul Dieu. Dieu seul est digne d'adoration et d'ailleurs Dieu dit qu'il ne partagera pas sa gloire avec un autre. Mais même si nous ne prions pas les saints, nous risquons de tomber dans le piège de prier des prières rabâchées, récitées, sans réaliser à qui nous nous adressons. C'est vrai que depuis un très jeune âge, j'ai prié ce que nous appelons couramment le Notre Père, qui est la prière que Jésus donc nous enseigne dans ce texte. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai récité cette prière en disant « Notre Père ». Mais est-ce qu'il était réellement à ce moment-là mon Père ? Il est devenu mon Père le jour où il m'a adopté dans sa famille. D'ailleurs, il y a un texte que j'aimerais lire qui parle de cela avec beaucoup de précision. C'est dans Romains au chapitre 8, les versets 14 à 17. Romains 8, les versets 14 à 17. Voici ce que l'apôtre Paul écrit. « ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et donc co-héritiers du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part avec lui dans la gloire. Dieu devient notre Père lorsque nous devenons son enfant. Seuls mes enfants m'appellent papa. En réalité, mes belles-filles aussi m'appellent papa maintenant. Et j'aime beaucoup tous les enfants, mais ils ne m'appellent pas papa, parce que je ne suis pas leur papa. Mais lorsque j'entends papa, je suis à l'écoute, car je sais que c'est mon fils ou ma fille qui s'adresse à moi. Alors, l'Écriture parle en termes d'adoption, et le seul qui peut garantir cette adoption, c'est Jésus-Christ. Et cela nous mène à notre deuxième point concernant la prière, car nous prions Dieu le Père au nom de Dieu le Fils, au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus parce qu'il est celui qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous. La communication entre Dieu et nous se fait par lui et par lui seul. Je vous rappelle que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut communiquer avec Dieu que par moi. La Bible, quand Jésus a dit cela, il a dit, c'est donc très exclusif. Et pourquoi Jésus est-il le seul qui puisse être notre intermédiaire, notre contact entre Dieu et nous? Eh bien, je vous renvoie bien sûr à la faute originelle. Nous avons perdu, lors de la faute originelle, notre communication avec Dieu. La communication avec notre Créateur a été coupée. C'est un peu comme si je me trouvais avec un téléphone brisé et incapable de le réparer moi-même. J'ai beau crier de toutes mes forces dans mon téléphone qui ne marche pas, je ne serai pas entendu, il n'y aura personne à l'autre bout du fil qui comprendra ce que je dis. Jésus est venu rétablir la communication, communion, communication avec Dieu. Et là, je vous rappelle la différence énorme qu'il y a entre le christianisme et les autres religions du monde, car Bouddha n'est pas mort pour mes péchés, pour me permettre d'être réconcilié avec Dieu. Mohammed n'est pas mort pour mes péchés et pour me réconcilier avec Dieu. Et Bouddha et Mohammed sont tous les deux morts et enterrés. Jésus-Christ est mort pour mes péchés, mais son tombeau est vide. Il a payé la facture de mes péchés, ce qui me séparait de Dieu. Le prix a été la croix, la souffrance, l'angoisse, sa propre séparation d'avec Dieu, son propre Père, et la mort. Le résultat est pour nous la réconciliation avec Dieu. La victoire sur la mort, la victoire sur le péché, la vie éternelle, donc la communion, communication rétablie avec Dieu. C'est donc Jésus qui nous donne accès à Dieu. C'est lui qui inscrit notre nom sur le livre de vie. C'est lui qui a dit qu'il allait nous préparer une place au ciel. C'est lui qui nous dit « Je suis » encore aujourd'hui, en 2012, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc lorsque nous plaçons toute notre confiance dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, en lui demandant d'être notre sauveur et notre maître, nous avons une ligne directe avec Dieu. Je ne sais pas si vous savez, mais le papa de Donna a été officier dans la marine américaine. Il était pilote sur les porte-avions, mais durant la crise de Berlin, il fut muté à Paris, travaillant au quartier général qui regroupait toutes les forces américaines en Europe. Et parmi les nombreux téléphones sur son bureau, il y avait le téléphone rouge, qui était une ligne directe avec la Maison Blanche. Il lui suffisait de décrocher le téléphone et le président des États-Unis était à l'autre bout. Dans un sens, lorsque nous devenons chrétiens, nous confirmons notre adoption comme enfants de Dieu et nous recevons un téléphone rouge avec une ligne directe avec Dieu et Dieu nous invite à utiliser ce téléphone sans frais et à toute heure est-ce Dieu qui nous dit qu'il est à l'écoute? Jésus dit, lorsque vous priez, dites, Notre Père qui est aux cieux. Mais si c'est par Jésus ou au nom de Jésus que nous prions le Père, il y a une autre personne impliquée dans nos prières et cela nous mène à notre troisième point. C'est le rôle du Saint-Esprit dans nos prières. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, en invitant Jésus-Christ à devenir notre Sauveur et notre Seigneur de notre vie, le Saint-Esprit nous est donné, c'est ce que l'Écriture dit. C'est une personne qui vient faire sa demeure, qui vient prendre résidence en nous. Il est en nous avec une mission bien précise. Il nous est donné, entre autres, pour nous consoler lorsque nous sommes affligés, pour nous guider dans la complexité de la vie, dans nos choix, dans nos décisions. Il nous est donné pour interpréter et appliquer l'Écriture à nos vies. Et il nous est donné pour nous aider à prier. Alors si nous apprenons à écouter sa voix, nous saurons comment et pourquoi prier. Vous savez, le Saint-Esprit est un peu comme un poste émetteur-récepteur. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à ce sujet dans 1 Corinthiens 2, verset 11. Il dit, « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Et aux Romains, l'apôtre Paul écrit au chapitre 8, verset 26, « L'Esprit de Dieu vient à notre secours car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. » Voyez-vous l'importance du Saint-Esprit dans notre vie de prière. D'un côté, le Saint-Esprit est le seul à connaître les pensées de Dieu, la volonté de Dieu, donc le poste récepteur. De l'autre, il vient à notre secours pour nous aider à prier en fonction de cette volonté de Dieu, poste émetteur. Alors, je n'ai pas le temps ce soir de développer en détail la relation entre nos prières et la volonté de Dieu. Ça prendrait tout un autre sermon, mais relevons simplement pour maintenant le rôle fondamental de l'Esprit-Saint dans nos prières. Il nous est donné pour nous aider à prier. Comme un poste récepteur, il nous permet de recevoir les pensées de Dieu qui, je vous le rappelle, ne se contredisent jamais avec l'Écriture sainte. Donc on ne peut pas prier au nom soi-disant du Saint-Esprit quelque chose qui est en contradiction avec l'Écriture. Et il nous est donné comme un poste émetteur nous permettant d'apporter à Dieu nos prières. Je n'ai pas vu la dernière version du film Le Titanic, mais il paraît que ce n'est pas très proche de la réalité. Il y a eu beaucoup de Hollywood qui a été rajouté à cela. Par contre, j'ai lu l'histoire vraie qui a été rapportée donc il y a bien longtemps des faits de cette terrible tragédie du Titanic. Donc quand je parle du Titanic, je ne vous parle pas de ce dernier film qui est sorti, mais de l'histoire qui a été rapportée par des témoins. Et quelque chose d'assez époustouflant, mais si vous êtes un homme ou une femme de prière, vous allez peut-être reconnaître quelque chose là que vous avez vous-même expérimenté. C'était en avril 1912, un dimanche soir, une femme était très soucieuse, elle ne pouvait pas dormir. Elle avait en elle un sentiment de peur et elle s'en sentit très fort le besoin de prier. Alors elle pria intensément pour son mari qui était quelque part au milieu de l'Atlantique, justement au bord du Titanic. Elle pria en agonie pendant des heures sans pouvoir expliquer pourquoi. Et ceci jusqu'à exactement 5 heures du matin. Après quoi elle fut remplie de paix et elle s'endormit. Durant ce temps-là, son mari, le colonel Gracier, était parmi ceux qui essayaient, de toutes leurs forces, de libérer les canaux de sauvetage du Titanic, qui lentement s'enfonçait dans les eaux glaciales. Cet homme avait déjà abandonné tout espoir de s'en sortir, mais il faisait de son mieux pour aider les femmes et les enfants à trouver des places dans les chaloupes. Finalement, le bateau plongea et s'enfonça dans l'océan, et le désir du colonel Gracier aurait été de pouvoir communiquer un dernier message à sa bien-aimée, mais il était maintenant aspiré avec le bateau. Instinctivement, il s'est mis à nager sous l'eau et il se retrouvait soudainement à la surface, près d'une chaloupe retournée, et avec d'autres personnes, ils purent finalement retourner à la chaloupe et être sauvés. C'était exactement 5 heures du matin. C'était à l'heure exacte à laquelle sa femme cessa de prier et fut remplie de la paix de Dieu. Alors vous direz, coïncidence? Peut-être, mais je ne pense pas. Je crois que Dieu, parce que j'ai entendu d'autres histoires semblables, Dieu avait mis sur le cœur de cette femme de prier pour son mari. C'est Dieu qui a sauvé cet homme, et dans le plan éternel de Dieu, eh bien, ce n'était pas le moment pour cet homme de mourir. Mais Dieu s'est servi de la prière fervente et efficace de cette épouse pour accomplir sa volonté. D'ailleurs, là, je vous renvoie à un autre texte d'Écriture qui dit « La prière du juste, donc du chrétien, est très efficace. » Si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies, si nous voulons voir Dieu agir dans nos familles, si nous voulons voir Dieu agir dans notre lieu de travail, si nous voulons voir Dieu agir dans cette église, comme tu disais Alex tout à l'heure, la voir remplie, eh bien mes amis, ça va commencer par les prières ferventes, des prières à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit. Dans toute l'histoire, Dieu s'est servi de prières d'hommes et de femmes. Toutes les périodes de grand réveil ont été précédées par des hommes et des femmes qui ont avec ferveur et régulièrement et avec foi prié, prié, prié. Des prières à l'écart, dans le secret, comme le texte le dit même assez fortement, quelqu'un veut prier, qu'il va dans sa chambre et qu'il ferme à clé la porte. Mais ça ne veut pas dire que ça s'arrête là. C'est aussi les prières collectives, lorsque le peuple de Dieu se rassemble et ensemble demande à Dieu d'agir. Et ce que je vous rappelle que ce que Jésus reproche aux pharisiens dans notre texte, c'est leur hypocrisie, non pas leur prière. Dieu entend les prières sincères qui viennent du cœur. Et ça veut dire qu'il écoute avec autant d'attention les prières, même maladroites, de bébés chrétiens, que les prières peut-être mieux formulées de chrétiens plus avancés dans la foi. Et ça, mes amis, c'est un encouragement pour chacun de nous. Si nous sommes avancés dans la foi, ou si on est juste un bébé chrétien, Dieu entend les prières de la même façon. J'ai lu cette histoire il y a quelques années de ce grand pianiste, peut-être que vous connaissez, Ignacy Paderewski. J'imagine que c'est un Polonais. Alors un soir, alors qu'il s'apprêtait à donner un concert à Londres, l'auditorium était rempli et le spot lumineux était dirigé vers le grand piano à queue qui n'attendait que l'artiste. Et une maman était également là, elle admirait ce pianiste et elle a même payé un billet plein tarif pour son petit garçon de 7 ans afin de le motiver à persévérer dans son apprentissage du piano. Et alors que cette maman conversait avec des amis, eh bien, elle ne s'aperçut pas que son petit garçon avait disparu. Soudain, le son du piano se fit entendre et la foule fit un grand silence. La mère du jeune garçon cessa également de bavarder, porta son regard sur la scène, mais plutôt que de voir Paderewski, elle vit avec horreur son garçon assis devant ce grand piano et faisait un boogie-boogie. La foule, surprise, quelqu'un s'écria « Mais sortez-le !» La mère embarrassée descendit immédiatement de l'allée centrale pour aller récupérer son fils, mais alors qu'elle arrivait sur le podium discrètement, Paderewski se glissa sur le côté, du jeune homme qui continuait à jouer. Et plutôt que de l'arrêter, il l'encouragea et lui disant « Continue jeune homme, ne t'arrête surtout pas, je vais t'aider. » Et il se joignit à l'air de musique que le jeune garçon jouait, harmonisant magnifiquement le simple boogie de l'enfant. Le fameux morceau de musique devenait un véritable chef-d'œuvre et la foule acclama ce duo surprise. Eh bien, lorsque nous prions, on peut parfois avoir l'impression de jouer un petit air banal, en ne sachant pas quoi dire, en pensant ou pensant le dire bien maladroitement. Parfois, on a même du mal à s'exprimer. Eh bien, le Saint-Esprit prend toutes ces prières, nos maladresses, nos manques de savoir-faire, même à la limite notre mauvaise théologie qui parfois ressort dans les prières, et il produit pour Dieu un chef-d'œuvre. Il s'assied à côté de nous, et lorsque il nous encourage, et lorsque nous prions, il dit « N'arrête pas, continue, je vais t'aider ». C'est un peu ce que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome lorsqu'il dit « Le Saint-Esprit vient à notre secours, au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit-Saint lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » En d'autres mots, il prend nos prières, maladroites, même imparfaites, et il le retransmet à Dieu parfaitement. Alors nous prions Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, avec l'aide de Dieu le Saint-Esprit. Vous savez, Dieu agit mystérieusement dans nos vies et dans la vie des gens par le moyen de la prière. Je vous encourage, c'est une période unique durant l'été, car normalement il y a moins d'activités. Quelle occasion de dire on va se discipliner, au lieu d'attendre que les choses nous viennent à l'esprit, bien que ça aussi ça se passe dans les prières, nous pouvons aussi de façon régulière prier tous les jours pour certaines choses, une fois par semaine pour d'autres choses, faire des petites cartes, et en allant faire des balades dans la forêt, ou simplement en étant à la maison un moment seul. Quelle occasion de pouvoir être des vrais intercesseurs. Dieu regarde au cœur de celui ou de celle qui prie, et le Saint-Esprit lui présente des prières parfaites. Pas une de nos prières ne vaut pas quelque chose. Toutes nos prières ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et bien que Dieu fasse de nous des hommes, des femmes et des enfants, je m'adresse aussi aux enfants, des hommes, des femmes et des enfants de prière. Et avec ceci, eh bien, je vous invite à la prière. Prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce don de la prière. Tu ne nous as pas seulement adoptés comme tes enfants, tu nous parles par ta parole, et en retour, nous pouvons te parler par la prière, avec simplicité et sincérité, et te dire « Père, même Papa ». Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons prié machinalement, des prières qui étaient d'abord pour ceux ou celles qui nous écoutaient. Pardonne-nous pour nos prières sans foi ou nos prières égoïstes. Nous te remercions que par Jésus-Christ, la ligne de communication entre toi et nous a été rétablie. Merci de nous accorder le Saint-Esprit, qui nous aide à prier et qui te transmet comme un parfum précieux nos prières imparfaites. Nous le prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, je vous invite à vous lever. Nous allons continuer ce culte par le cantique numéro 49 pour nous préparer à prendre la Sainte-Cène.